résistance et mémoire. Les jeunes Gersois à la recherche de leurs histoires.
Bonjour, nous sommes Julien et Léo. Nous avons eu l'occasion de discuter avec Kevin Dieu lors du 80e anniversaire de l'opération de minuit. Il a 33 ans et il est petit-fils d'un résistant gersois. C'est un passionné de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans la région.
Il a amassé une impressionnante collection d'objets, casques, uniformes, armes, badges, courriers, cartes, autant des témoignages de l'activité résistante qui s'est développée à l'époque. Il nous raconte notamment le fonctionnement précis du maquis de Pont-Saint-Père.
Bonjour, moi c'est Kevin Dieu, j'ai 33 ans, je suis gersois, j'ai été au lycée Pardaillan comme vous, et je suis passionné d'histoire depuis mon plus jeune âge, et je récupère un maximum d'objets militaires depuis une quinzaine d'années maintenant, afin de pouvoir en faire partager les personnes au travers d'expositions comme celle que vous pouvez voir aujourd'hui. Parce que si c'est pour garder les objets pour moi-même, ça sert à rien, le but c'est de présenter les objets pour se souvenir, ne pas oublier le passé.
On est où ici et qu'est-ce que vous nous avez emmené comme objet ?
Aujourd'hui, nous nous trouvons à Pont-Saint-Père, là où le 14 décembre 1943 a eu lieu la rafle au château de Cour. C'est pour cela que j'ai aujourd'hui amené des objets relatifs à cette période. Donc vous pouvez retrouver des objets authentiques du 2e Dragon, mais des objets issus du parachutage anglais-américain et des tenues, insignes, brassards du corps franc-pommiès également.
2e Dragon ?
Le 2e Dragon, qui était un régiment qui s'est installé à Auch, au quartier Espagne, suite à l'armistice du 17 juin 1940. C'est un régiment qui est venu à Auch en septembre 40 et qui est resté jusqu'en 42 après l'invasion de la zone libre, dont la principale activité était le CDM, qu'on appelle camouflage du matériel.
Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer ? Parce que camouflage, ça veut dire quoi exactement ?
Alors, camoufler le matériel, c'était... Le maréchal Pétain et Hitler autorisaient une armée d'armistice de 100 000 hommes en France. Donc, le 2e Dragon était installé officiellement à Auch. Mais officieusement, ils avaient nommé des officiers pour camoufler le matériel. C'est-à-dire qu'ils récupéraient le matériel dans les garnisons directement. Alors vous pouvez voir des uniformes, armements, équipements, pansements, mais également des cartes d'état-major, dans le but de les camoufler dans les fermes ou chez les sympathisants de la résistance, pour pouvoir reprendre la lutte au moment voulu.
Les camoufler, ça veut dire qu'ils changeaient les insignes ? Qu'est-ce qu'ils faisaient par exemple ?
Alors, les insignes, non, mais les camouflets, ben, ils les cachaient sous la paille. L'armement, c'était sous la paille. Et les uniformes, ben, c'était caché dans des fours à pain chez des boulangers, par exemple, non utilisés, dans des caisses, dans les greniers, dans les caves. Tu vois, ils sont en uniforme, là. Pourquoi ? Parce que c'était le 2e Dragon. C'est pas des résistants, encore. Ce sont des soldats du 2e Dragon qui faisaient partie de l'armée d'armistice, autorisés par Pétain et Hitler. Ils sont entrés en résistance après l'invasion de la zone libre. Quand le 2e Dragon a été dissous, là, ils sont passés en résistance.
C'est ça, c'est que, si j'ai bien compris, ils étaient tous à Auch. Et puis après, une fois qu'évidemment...
À Auch, c'était officiel.
Auch, c'était officiel, c'est ça.
Et à l'invasion de la zone libre, Hitler a dit stop à l'armée d'armistice, j'envahis tout le monde. Et le 2e Dragon a été dissous. Le quartier Espagne à Auch a été pris par l'armée allemande. Ils y ont mis une garnison d'artillerie allemande. Et du coup, ces gens du 2e Dragon... Ils l'avaient anticipé, ils ont commencé à se trouver des pseudo-travaux dans le coin. Et d'où le château de Cour, où c'est qu'ils sont venus se réfugier et pour continuer leur activité secrète.
Et d'ailleurs, après la nuit du 13-14 décembre, comment ils ont continué ici à se structurer ? Parce que j'imagine que ça a dû être extrêmement effrayant pour tout le monde, cette opération-là. Donc la résistance ne s'est pas du tout arrêtée à ce moment-là, évidemment.
La résistance ne s'est pas éteinte à ce moment-là. Au contraire, elle n'a fait que se durcir. Parce que suite à cela, il y a eu l'aide extérieure, comme je présente là les parachutages, qui ont été très importants, mais aussi de nombreux réfractaires au STO qui ont continué d'affluer de partout en France. Et la résistance s'est structurée grâce à des groupes comme le Corps Franc-Pommiès, le bataillon d'Armagnac dans le Gers. Ils ont recruté, et grâce au parachutage allié et au matériel camouflé par le 2e Dragon, ils ont pu passer à l'action le 6 juin 1944 et avoir... des uniformes, des équipements réglementaires, comme vous pouvez le voir sur le mannequin du corps franc-pommiès.
Ici, le cours a été complètement vidé après la rafle, enfin l'opération de minuit.
Ah oui, après l'opération de minuit, il fallait
C'était plus une cachette.
Non. Non. Là, il y avait plus... Une fois qu'un lieu était grillé, comme on disait à l'époque, il ne fallait surtout plus y retourner. Les ouais. Allemands, ils attendaient que ça. Donc on passait à un autre lieu plus sûr.
Qu'est-ce qu'on voit là sur cette table ?
Alors sur cette table, vous pouvez voir un buste du 2e dragon, tel qu'ils étaient équipés quand ils étaient à Auch en garnison. Et ici, une vue d'ensemble du matériel qui avait pu être camouflé à l'époque. Donc vous avez ici un fusil mitrailleur français, modèle 24-29, les revolvers d'officiers, les uniformes qui ont servi à équiper le corps franc-pommiès, les gamelles, les pansements, un véritable paquet de cigarettes. Là, vous avez un fanion du 2e dragon. Ensuite, des cartes d'état-major, des jumelles, des ceinturons et tout genre d'équipement qui aurait pu être utile à la résistance.
Est-ce que certains de ces éléments de votre collection sont-ils en lien direct avec l'opération de minuit, le 2e dragon ou le corps franc-pommier ?
Oui, tout à fait. Sur le buste, là, le veston en cuir que vous pouvez voir est issu directement du 2e dragon et a été récupéré vers Pessan dans une ferme abandonnée longtemps après la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, l'ensemble a souffert, il y a de nombreux trous, des manques, mais c'est un objet authentique et directement en lien avec le 2e dragon et le corps franc-pommiès.
Alors, vous êtes jeune, vous n'avez pas connu ces événements, pourquoi vous intéressez-vous à ce passé ?
Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la Seconde Guerre mondiale quand j'étais en 3e. Parce qu'on avait, qui est toujours d'ailleurs, le concours national de la résistance. Et ça a commencé à un peu m'intéresser et on m'a dit que mon papy avait été résistant. J'ai commencé à lui poser quelques questions. Malheureusement, il est décédé entre-temps. Et en rangeant ses affaires, j'ai retrouvé un de ses insignes et des photos de lui pendant la résistance. Et j'ai eu une sorte de déclic vraiment pour l'histoire, mais également pour les objets. Parce qu'en partant d'une photo, j'ai fait un vide-grenier, j'ai trouvé un insigne, une médaille, un casque, un masque à gaz. Et voilà, ma passion était lancée. Et la collecte des objets depuis aujourd'hui.
À partir de quel âge vous avez commencé ?
J'avais 14 ans, j'étais en 3e, donc oui, 14 ans.
Et votre papy était engagé où ?
Lui, mon papy, il était au corps franc-pommiès. Mais vu qu'il est décédé avant d'avoir pu finir d'en raconter son histoire, j'ai jamais pu savoir réellement ce qu'il avait fait. Mais c'est que dernièrement, quand on a vendu la maison de ma grand-mère, qu'en retrouvant ses affaires, j'ai vu une des photos au corps franc-pommiès que j'ai pu identifier clairement pour la période 1944.
Incroyable. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Ah ben, je me suis assis. Pendant quelques minutes, il a fallu que je m'assoie et c'est très émouvant. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand on trouve une photo comme ça, très émouvant.
Comment vous avez réussi à avoir cette collection et comment vous avez réussi à trouver tous ces objets ?
Ça fait maintenant un peu plus de 15 ans hein, que je collectionne ces objets, que je les ramasse dans les vides-greniers, chez les anciens avec des dons, mais également des achats. Parce que vous imaginez que tout ce qui est là, ce n'est pas que des dons. Il faut parcourir les sites de vente, les vides-greniers, les maisons de vente aux enchères et un réseau de passionnés qui, de temps à autre, acceptent de me céder une pièce qui est dans le thème du corps franc-pommiès, mon thème principal.
Que le corps franc-pommiès ?
Corps franc-pommiès, mais également tout ce qui touche à la résistance locale, donc le 2e dragon également. Mais après aussi, je récupère un peu les objets de la guerre 14-18 et des guerres d'Indochine et d'Algérie également.
Par exemple, concrètement là, ça, ce tube-là de pansement, vous l'avez retrouvé où par exemple ?
Alors, ces pansements que vous pouvez voir là, je les ai récupérés à Massub. Il y a un brocanteur qui me connaît maintenant et qui, dès qu'il vide les maisons, qu'il voit des objets qui lui semblent militaires, il me les met de côté. Et ça vient d'une caisse entière de pansements d'époque qui sont de 1939. Et c'est comme ça que je peux récupérer, par exemple, ces objets. Ensuite, vous avez la veste de tout à l'heure que je vous ai présentée. Ça, c'est un don. Elle était dans une grange. Le fanion, lui, je l'ai récupéré sur Internet. Ça m'a coûté une bonne partie de mon salaire, mais je ne pouvais pas le laisser passer. Et après, ce qui est les jumelles, les ceinturons, tout ça, je le trouve en vide-grenier ou des anciens qui m'en font don.
Vous avez combien de pièces au total ?
Alors, je ne peux pas vous quantifier le nombre de pièces que je possède. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai plus de 20 mannequins en tenue d'époque, équipés, habillés. Et ça représente 3 pièces de la maison de mon père qui accepte de me les laisser pour que je puisse entreposer ma collection.
Et alors, on ne va pas vous poser la question de combien vous avez dépensé depuis 15 ans ?
Non, je compte pas. Je compte pas, il vaut mieux pas. Pour exemple, vous avez un conteneur de parachutage. Je l'avais payé 800 € à l'époque. Donc juste le conteneur.
C'est quoi un conteneur ?
Le conteneur de parachutage, c'est le tube que vous voyez là. ici, métallique, dans lequel étaient parachutés les fusils et armements par les Anglais et les Américains. Donc il y avait différents modèles, containers métalliques, il y a les gros modèles, mais les petits modèles pour les munitions, mais également containers en tissu qu'on appelait plutôt paquets, qui étaient livrés par les Américains pour des charges inférieures à 100 kg.
Et ici, il y avait des... ils larguaient des colis comme ça ?
Tout à fait, c'est pour ça que j'ai présenté le parachutage. Dans le Gers, a eu lieu le premier parachutage en 1943. Et à Pont-Saint-Père, ils ont eu quelques armes issues des parachutages, mais c'était vraiment les débuts, les premiers parachutages.
Pourquoi Pont-Saint-Père était localisé comme on va dire un refuge ou un bastion où pouvaient venir ici se coordonner, on va dire, les résistants qui étaient un peu disséminés partout dans la campagne ?
Alors, je ne suis pas spécialiste militaire de la période, mais Pont-Saint-Père était assez éloigné des grandes villes. Auch, c'était assez loin, Tarbes assez loin, Toulouse également. C'est un lieu qui est assez isolé, mais on peut voir assez rapidement l'arrivée d'Allemands ou de troupes ennemies qui seraient venues. Mais c'était également propice pour recruter des jeunes, parce que le château de Cour était assez grand. Pour recruter ces jeunes, il faut les loger et il faut les occuper. Il y avait les chantiers forestiers aux alentours qui étaient un bon prétexte pour employer ces jeunes qui en fait s'employaient au camouflage du matériel en vue de passer en résistance après le débarquement allié.
Avant l'opération de minuit, ils étaient en préparation, c'est ça ?
Tout à fait. Sous couvert de travaux dans les forêts, en réalité, ils se regroupaient pour avoir une instruction et militaire, mais également récupérer du matériel, des parachutages et passer à l'action au moment voulu.
Et alors on sait exactement ce qu'il y avait dans le château, par exemple, là vous pouvez nous montrer.
J'ai quelques photos d'époque qui sont présentes ici, vous les voyez devant le mât des couleurs. Donc il n'y avait pas d'uniforme, parce que même si les Allemands étaient loin, il y avait toujours des patrouilles et de gendarmerie ou de collaborateurs qui passaient. Il fallait paraître le plus civil possible, pas montrer l'appartenance à un groupe de résistance. Donc ils étaient en civil. Après, on peut imaginer qu'ils avaient quelques armes de parachutage, comme la mitraillette Sten que vous voyez sur le mannequin, ou des armes qui venaient directement du 2e dragon, comme les pistolets automatiques ou revolvers que vous voyez sur la table.
C'est vous qui avez fait ces panneaux ?
En fait, ça, c'est un récit de l'opération de minuit fait par Elérica Leroy, qui est une historienne sur Toulouse qui travaille avec la région et le département. Voilà, c'est tout son travail de recherche sur l'opération de minuit.
J'ai une question très personnelle. Moi, j'ai votre âge et je ne savais pas qu'il y avait la résistance dans le Gers. Enfin, on en parlait un petit peu, mais c'était les voisins, c'était peut-être les grands-parents, mais il n'y avait pas d'histoire, même écrite peut-être dans les années 90. En tout cas, on n'en parlait pas à l'école. Vous étiez étonné de voir quand même tout ce maillage, ce réseau-là qui était présent ici ?
Alors moi, j'habite pas loin dans le Gers du maquis de Meillan, maquis qui a été décimé dans la nuit du 6 au 7 juillet 1944. Donc j'ai toujours été imprégné de ce souvenir et de l'histoire locale de la résistance. Donc pour moi, il y avait quand même une centaine d'hommes, donc je partais jamais du principe qu'il n'y avait rien eu dans le Gers. Je savais qu'il y avait toujours eu une forte activité de résistance. Et après, comme vous pouvez voir sur cette carte, qui est issue des travaux de Guy Labédan, qui est décédé aujourd'hui, qui était un historien ancien du corps franc-pommiers, qui a réalisé cette carte sur tous les faits de résistance, parachutage, action, embuscade, camp et maquis qui ont eu lieu dans le Gers. Tout ce que vous pouvez voir là, c'est un acte de résistance dans le Gers. À vue d'œil, il y en a plus de 100. Donc,
Qu'on voit ça ? Alors, c'est quoi ces petits sigles ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Bien sûr. Alors, les sigles avec les parachutes, ce sont des parachutages. Parachutage. Les fusils croisés, ce sont des embuscades. Tout est daté.
Embuscade, ça veut dire quoi ?
Embuscade, ce sont des attaques avec l'armée allemande, les miliciens ou d'autres groupes de collaborateurs. D'ailleurs, vous pouvez voir, il y a Pont-Saint-Père qui est bien noté ici. 14 décembre 1943.
Ensuite, les maquis, c'est les refuges.
Le maquis, c'était le groupement de résistants. Il y a eu le maquis de Meillan et après, il y a eu le bataillon de l'Armagnac. Le corps franc-pommier, ce n'était pas un maquis, c'était une action armée de la résistance. Le bataillon de l'Armagnac, lui, opérait plus à l'ouest du département et était également structuré, mais ne faisait pas partie de l'organisation de la résistance armée, c'était l'armée secrète, un autre groupe de résistance. Donc vous voyez toutes les légendes. Le Gers ne s'est pas contenté d'attendre le débarquement allié pour entrer en résistance. Parce que toutes ces actions-là ne sont pas... pas uniquement après le débarquement, hein. Il y en a d'avant. D'ailleurs, vous avez Pont-Saint-Père, c'est bien avant le débarquement. Il y a avant et après le débarquement.
Avec votre exposition, vous arrivez à la présenter ?
Alors, mon exposition, j'essaie de la présenter le plus souvent possible quand on me le demande. Mais ça prend du temps, parce qu'il faut un jour pour l'amener, le jour de l'expo, Des fois, ça dure une semaine ou un mois même, et il faut un jour pour la ramener. Donc là, par exemple, vous voyez, pour faire cette expo, j'ai posé trois jours de congé pour réaliser cette expo.
Trois pièces remplies d'objets, comment vous faites pour choisir là ?
Alors je choisis en fonction de l'expo. Il ne s'agit pas de présenter du matériel militaire pour montrer aux gens j'ai ça, ça sert à rien. Moi ce que je veux c'est présenter l'histoire locale. Aujourd'hui je me suis contenté d'amener le matériel qui était vraiment en relation avec Pont-Saint-Père, c'est-à-dire les objets du deuxième dragon, les objets de parachutage et les objets du corps franc Pommiès.
C'est quoi ça ?
Ça ce sont des tracts. Qui étaient distribués pour motiver les résistants en leur disant « on vous oublie pas, voilà ce qui se passe dans le monde » parce que la communication à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui, on n'avait pas internet, on n'avait pas accès à la radio comme aujourd'hui, c'était assez restreint. Du coup, fallait motiver les résistants en leur larguant des tracts. Vous avez ce modèle-là, mais vous avez également le Courrier de l'air, ça c'était un journal de De Gaulle où c'est qu'il expliquait les actualités de la guerre.
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce tract ?
C'était pour dire aux résistants, il n'y a pas que vous qui vous battez. Par exemple, l'Angleterre est en train de construire 30 000 tanks à l'heure actuelle.
Ça, c'était envoyé comment ?
Ça, c'était envoyé par avion. C'était les avions qui distribuaient des tracts sur les populations et dans les villes. Mais évidemment, les Allemands s'empressaient de tout ramasser et de tout brûler.
Pourquoi c'est écrit en anglais, là ?
Alors, ce que vous voyez ici, c'est le matériel issu de parachutage venant d'Angleterre et des États-Unis. C'est pour ça que les pansements sont écrits First Aid Racing, marque Johnson & Johnson qui existe encore. Vous voyez, j'ai présenté le matériel qui était parachuté. Alors ça va du pansement, mais également les objets pour le sabotage, parce que le sabotage joue un rôle très important dans la résistance pour faire dérailler les trains notamment. Les munitions, et là les cigarettes, parce qu'il fallait quand même leur amener un peu de réconfort. Donc ils parachutaient des cigarettes, de la nourriture, du thé. Mais également des armes, beaucoup d'armes, et des brassards. Et là, vous avez un foulard en soie sur lequel est représentée la carte de France, qui était soit parachutée, mais souvent utilisée par les pilotes d'avion lorsqu'ils s'écrasaient au sol pour se guider, et ensuite ils le brûlaient pour effacer les traces.
Votre grand-père, il avait quel âge quand il était dans le corps franc Pommiès ?
Mon grand-père s'est engagé au corps franc Pommiès assez âgé, il avait d'ailleurs mon âge. Quand il était au corps franc Pommiès, il avait la trentaine passée.
Ça vous fait quoi là de réunir tout ça ? C'est un peu pour lui quand même que vous le faites ?
Je le fais et pour lui, mais également pour l'ensemble des personnes, parce que il faut pas oublier. Il faut pas oublier ce qui s'est passé, leur rendre hommage quand on peut, comme on le peut. Moi, c'est ma façon de leur rendre hommage en présentant ces expositions et faire en sorte qu'on n'oublie pas.
L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par des élèves de terminale STMG du lycée Pardaillan à Auch dans le Gers, dans le cadre de la réalisation d'un reportage sur l'opération de minuit. Ce projet autour de la transmission de la mémoire a été accompagné par Sophia Marchesin et Sophie Perroiguet, les journalistes de l'association La Chance, avec Alexandra Josse de Média Commun à la réalisation, sous l'égide de leurs professeurs, messieurs Duteil, Guy et Néré, qui ont accompagné le projet tout au long de l'année. L'ensemble des élèves tiennent à remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans le cadre de ce projet. Cette émission est placée sous licence Creative Commons 4.0, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.